La situation politique demeure extrêmement fragile en RDC et le processus du dialogue n'est pas aussi inclusif que l'on l'aurait souhaité. Ce sont les propos du patron de la MONUSCO mardi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Maman Sidikou estime que la seule solution qui trace le chemin vers la paix pour le pays reste un dialogue inclusif. Et puis le seigneur de guerre, Kyungu Mutanda Gédéon, s'est rendu mardi aux autorités de la province du Haut-Katanga pour répondre à l'appel du chef de l'État qui veut la paix. Les autorités provinciales qui ont salué cette reddition ont promis la sécurité à ce seigneur de guerre. Voilà les deux thèmes qui réunissent les journalistes ce soir et je m'en vais saluer J.R. Mokolo. Bonsoir.
Oui, bonsoir Abérif, Franklin Luchaka. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en tout cas sur Radio Okapi.
Vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision qui émet ici à Kinshasa. Jean-Pierre Kayembe, bonsoir.
Bonsoir cher ami.
Vous êtes journaliste et responsable de la presse numérique à la RTGA, un média de Kinshasa, n'est-ce pas?
Oui, merci.
Et nous avons au téléphone Donna Moussema, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les confrères.
Et vous êtes directeur général de la radio Iriba FM, émettant à Bukavu et point focal de l'association des journalistes des Grands Lacs, représentant le Rwanda, le Burundi et la RDC. Et je dis aussi bonsoir à Dieudonné Nyangasa qui assure la mise en onde de ce numéro. Bienvenue à tous dans ce numéro. Nous allons écouter la revue de presse qui porte la signature de Kéline Kouté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Le potentiel rapporte que l'ONU s'inquiète d'une aggravation des tensions politiques en RDC. Ainsi résume-t-il les propos du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la RDC, M. Mamane Sambo Sidikou, devant le Conseil de sécurité où il a reconnu que l'ampleur des menaces dépasse de façon spectaculaire les capacités de la mission, relève ce quotidien. Face aux menaces, Mamane Sambo Sidikou estime que la seule solution et pour les partis de participer à un nouveau processus inclusif qui trace un chemin vers la paix pour le pays, rapporte le Phare, qui précise que le chef de la MONUSCO a demandé au Conseil de sécurité d'user de son influence pour encourager les acteurs congolais qui boycottent le processus du dialogue à y participer de nouveau et le gouvernement à garantir le droit à une activité politique pacifique. RDC, l'ONU s'inquiète d'une aggravation des tensions politiques, écrit sur 7.5. CD, Mamane Sidikou craint pour la sécurité en RDC et appelle l'ONU, selon sur cette point CD, à encourager un processus inclusif dans le pays. La reddition du chef rebelle Kyungu Gédéon. Kyungu Gédéon a déposé les armes au Katanga et le Phare s'étonne déjà de cette reddition, mais aussi de l'accueil réservé à ce chef milicien et ses hommes à Lubumbashi. La fête était totale, renseigne ce journal, car les criminels et ses acolytes ont eu droit à un carnaval motorisé, chant et danse des majorettes, ainsi qu'aux hommages du gouverneur de province, du président de l'Assemblée provinciale, des officiers militaires pour leur prétendue reddition. Et au journal de poursuivre un soutien encombrant, Gédéon adhère à la majorité présidentielle. Parlons dialogue à présent, fin imminente du dialogue, la référence plus annonce la signature imminente d'un accord politique, car sur les 11 points de divergence entre la majorité présidentielle et l'opposition politique, 8 sont aplanis. Si en manchette, le journal titre Kinshasa cède la primature, dans le corps de son texte, il émet un doute parce que l'opposition attend la notification. La tempête tropicale ne partage pas l'optimisme sur la bonne fin du dialogue. Le forum piloté à Kinshasa par Edem Kodjo se termine sur un constat d'échec. Alors, dialogue inclusif, cap sur Luanda titre ce journal pour la réunion de la dernière chance.
Merci Kelly. Dans l'actualité, vous savez, les travaux du dialogue entre parties prenantes en concertation jour et nuit se poursuivent. La majorité présidentielle dit avoir fait une concession majeure en faveur de l'opposition. Dans ce projet d'accord en discussion au sein du groupe de travail du dialogue, la famille du chef de l'État accepte de céder la primature à l'opposition afin de gérer la période de transition qui intervient après le 19 décembre prochain. J.R., vous avez suivi cette actualité forcément. Comment vous avez analysé ces discussions?
Oui, ces discussions en tout cas respectent pratiquement la tradition congolaise qui veut que l'on ne travaille pas en fonction du temps, qu'on a toute une éternité devant soi. Les travaux qui étaient prévus pour 14 ou 15 jours, aujourd'hui on en est en tout cas plus d'un mois, tout ça pour trouver des formules, des sorties de crise.
Est-ce qu'il y a une avancée dans ces travaux?
Bon, En tout cas, il y aura avancé lorsque ils auront signé cet accord-là et qu'on aurait vu les contenus de cet accord. Mais quels que soient les compromis politiques auxquels toute la classe politique qui se retrouve à la Cité de l'Union africaine avec la majorité présidentielle pourra trouver, il se posera un problème de la mise en œuvre de ces compromis politiques, parce qu'il y a une bonne frange de l'opinion représentée par les MLC, représentée par les rassemblements, et même une bonne frange de la société civile qui ne se reconnaît pas dans ce qui s'est fait à la Cité de l'Union africaine. Donc il y a un problème. On peut bel et bien donner la primature à Vital Kamerhe et ses amis. On peut bel et bien leur concéder beaucoup de choses là-bas. Et contre quoi ils vont accepter que le président Joseph Kabila puisse rester au pouvoir jusqu'à ce qu'on va organiser les élections dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais imposer maintenant ces compromis à toute la classe politique, c'est ce qui va en tout cas poser problème. Parce qu'on a vu le dépassement de la date prévue pour la convocation électorale a posé problème à un mort d'homme. Donc le 19 décembre, s'il n'y a pas un accord qui implique toute la classe politique, nous risquons d'avoir des difficultés.
Merci beaucoup. Alors, Jean-Pierre, l'un des points d'achoppement entre la majorité et l'opposition au dialogue, c'était justement le mandat du président de la République. On se souvient que les deux parties ne s'entendaient pas sur si le président va rester ou pas. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Mais écoutez, je sais qu'il y a eu beaucoup d'avancées d'ailleurs, des tractations qui se poursuivent. La majorité a fait ce qu'elle a pu faire en concession, octroyer ou céder la primature à l'opposition politique.
Donc pour vous, ça, c'est une grande avancée.
Une très grande avancée, mais je ne pense pas que l'octroi de la primature puisse être considéré ici comme une prime au glissement. Tout on sait que la situation que le pays traverse aujourd'hui a de responsabilités partagées aussi bien côté opposition qu'au niveau de la majorité présidentielle. Mais parce qu'on est au niveau de chercher la porte de sortie de la crise actuelle, je pense que c'est le moindre mal aujourd'hui que l'on donne la primature à l'opposition, qu'on ait cette gestion consensuelle et un gouvernement qui aura
même si le rassemblement n'y est pas.
Écoutez, on n'a jamais fermé les portes hein, au rassemblement pour qu'ils ne viennent pas au dialogue. Ce sont eux qui se sont auto-exclus. Quand on parle ici de l'inclusivité, je ne connais pas un seul acte qui ait été pris à la Cité de l'Union africaine excluant une catégorie quelconque de Congolais. Aujourd'hui, on tombe exactement dans le chemin voulu par l'UDP, c'est une primature à l'opposition. Vous vous souvenez de ces fameux accords qui avaient été signés entre le parti de Tshisekedi et la majorité présidentielle. Donc aujourd'hui, dans l'accord qui va être signé, il est prévu une ouverture. Donc le rassemblement peut à tout moment ratifier l'accord qui va être signé. Que je sache, il n'y aura pas un deuxième dialogue. La SADC l'a rappelé. Il n'y en aura pas en tout cas, mais néanmoins, on laissera une porte à ceux qui ont hésité qu'ils viennent, qu'ils ratifient.
Merci. Donna, vous avez suivi JR et Jean-Pierre. Est-ce qu'on peut s'attendre à une sortie de crise à l'issue de la signature de cet accord ?
Merci beaucoup. Je serais plutôt pessimiste parce que quand on voit d'abord la genèse de ce dialogue, on va se rappeler que c'est un dialogue qui a été forcé de toutes pièces. Au moment où depuis très longtemps on disait que les institutions étaient bel et bien en place, qu'il n'y avait pas de crise, il fallait donc le dialogue, on avait d'abord refusé. Et puis la majorité présidentielle est venue maintenant imposer le dialogue, un peu comme pour se maintenir au pouvoir. Donc ça fait qu'aujourd'hui, avec tous les enjeux qui sont sur le terrain, on ne peut pas s'attendre à une issue de crise parce que d'abord, la grande partie, les confrères l'ont dit, la grande partie de l'opposition n'est pas dans ce dialogue. Une grande partie aussi de la société civile très absente dans ce dialogue. Donc, ça fait que, bon, on ne peut pas être confiant. Surtout que, quand on a violé la Constitution, qui est la loi fondamentale, est-ce qu'on peut croire que ceux qui ont violé la Constitution vont respecter ce qui sera contenu dans ce dialogue? Voilà autant d'éléments qui peuvent permettre à plus d'une personne d'être sceptique par rapport à l'issue de ce dialogue, donc on est pessimiste.
D'accord. Alors, puisque vous avez la parole, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui à Bukavu, très rapidement?
À l'instant où je vous parle, il y a d'abord les fanatiques de l'OSI Bukavu Dawa qui sont vraiment en tension. Ils sont dans les rues tout simplement parce que ils sont contre la mise en place d'un comité à la tête de leur équipe par la FECOFA au moment où ils disent que leur comité est encore dans le mandat jusqu'à la fin de la saison en cours. Alors il y a une tenue de cette assemblée générale qui se tient maintenant dans les locaux de la police nationale congolaise et sous haute surveillance policière en présence des délégués de la FECOFA. Et on pense que cela viole les statuts de l'OC Bukavu Dawa et même le contenu de la lettre du ministre des Sports du 15 juillet. Donc il y a tension à l'instant où je vous parle. La tension a commencé d'ailleurs depuis hier. Une autre crise qui touche la politique, ça touche le PPRD au sud Kivu. Le comité fédéral de ce parti a érigé un sit-in depuis le mardi dernier à la résidence du bureau du gouverneur Marcelin Tshisekedi et lui demandait de démissionner pour cause, d'après eux, mais gestion et mauvaise gouvernance de la province. Un jour après, sur ordre de leurs camarades, le gouverneur Marcelin, ils y ont été dispersés par la police au moyen de gaz lacrymogènes. Des coups de balles ont été entendus. On dénombre 3 blessés, tous aux arrêts à l'instant où je continue de vous parler. Et parmi les arrêtés, il y a le secrétaire fédéral lui-même, Maître Alain Tambouka. D'autres membres du comité, quelques militants, sont en sit-in maintenant devant le siège de la majorité présidentielle, observant la grève de faim jusqu'à ce que le gouverneur puisse libérer le coordonnateur de la majorité présidentielle au sud Kivu. Donc il s'agit d'une situation qui a dégénéré depuis bientôt 2 ans et la paix est loin vraiment de se rétablir au sein du parti du chef de l'État en province du sud Kivu.
Merci beaucoup. Alors pour ceux qui sont ici à Kinshasa, JR et Jean-Pierre, l'autre actualité qui nous vient du ministère de l'Intérieur, c'est justement le ministre de l'Intérieur qui a présenté mardi le rapport d'enquête gouvernementale sur les manifestations de l'opposition les 19 et 20 septembre dernier, manifestations qui ont dégénéré en émeute. Évariste Bouchab a souligné que les actes décrits dans ce document sont d'une extrême sauvagerie et que le bilan de ces manifestations est de 32 morts, parmi lesquels 3 policiers, dont un brûlé vif et une fillette de 9 ans. Jean-Pierre, comment vous avez analysé ce rapport?
Vous voyez parler du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur.
Oui.
Écoutez, il était du devoir du gouvernement de la République de mener des enquêtes et d'en publier les résultats. Quand on sait que autour de ce qui s'est passé entre les 19 et 20, il y a eu du mensonge, il y a eu toutes sortes de propos tenus par des opposants, la désinformation à outrance, des gens qui ont trouvé des moyens pour dire tout le mal qu'ils pensent de leur pays. Et donc, il était du devoir du gouvernement de mener des enquêtes, de nous dire ce qui s'est réellement passé, qui ont été au cœur de ces émeutes, quelles en sont les conséquences, les résultats, et nous dire les sorts qu'on réserve à ceux qui ont appelé à la violence. Parce qu'aujourd'hui, dans certains milieux, on pense, on prétend que seule l'opposition a le monopole de la vérité, que ce que l'opposition dit aujourd'hui vient, on dirait, du ciel. Je crois qu'aujourd'hui, il est important qu'en tant que ministre de chargé de la sécurité, que M. Bouchab rassemble tous ces éléments qu'il a présentés dans un ouvrage qu'il a remis au corps diplomatique ici au pays.
D'accord. Alors, JR, quelle est la nouveauté dans ce livre blanc, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle?
Bon, malheureusement, je n'ai pas lu ce livre blanc. J'ai seulement suivi le compte-rendu fait par la presse de ces documents. Mais je note tout simplement qu'il s'agit d'une enquête partielle fait par un camp au conflit, c'est-à-dire les institutions de la République qui semblent en tout cas se trouver face à l'opposition. Et donc c'est un livre blanc pour blanchir le gouvernement et ses services qui ont aussi fauté dans tout ce qui s'est fait et ce qui s'est passé les 19 et 20 septembre. Bon, Jean-Pierre, quand il me parle de désinformation, de mensonges, s'il y a des informations aussi, exagération, il y a mensonges, c'est dans tous les deux camps. Donc vous ne me direz pas que tout ce qui est contenu dans ce livre blanc-là reflète la réalité des choses, parce que ceux qui ont assisté aux obsèques des policiers, on a vu 4 cercueils de policiers, mais les rapports ici parlent de 3 policiers tués. Donc ça veut dire déjà il y a déjà une contre-vérité. Et bon, les 19, si on peut considérer que ce sont les opposants qui manifestaient, qui ont brûlé, saccagé, tué, et le 20 septembre, qui ont tué, qui ont saccagé, et les morts au siège de l'UDPS avec des gens brûlés vifs. Et ces gens-là n'ont pas aussi droit à la justice. Ça, c'est préparé même. Parce que le premier jour, c'était une foule en colère, sûrement on peut comprendre. Mais le deuxième jour, c'est prémédité. Donc l'État s'est montré en tout cas partisan. Et je crois qu'une telle gestion partisane de l'État ne peut pas arranger les choses.
Merci beaucoup. C'est sur cette note qu'on va commencer notre premier thème de la soirée qui concerne l'adresse du représentant Maman Sidikou Sambo au Conseil de sécurité. Le patron de la MONUSCO s'est exprimé mardi 11 octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York aux États-Unis. Maman Sidikou a concentré son propos sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire de la RDC et l'appui que le Conseil de sécurité pourrait apporter aux efforts de la MONUSCO. Mireille Boukassal nous donne plus des détails à ce sujet.
D'après Maman Sidikou, la situation politique demeure extrêmement fragile en RDC, ce qui contribue aux tensions accrues et à un risque réel de voir la situation se dégrader davantage. Et malgré les efforts déployés par le facilitateur Edem Kodjo, le processus du dialogue n'est pas aussi inclusif que l'on aurait souhaité. Il a dans son discours rappelé qu'au cours de l'une des assises du dialogue national, la CENI a annoncé que la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales en un seul jour ne serait techniquement possible que le 18 novembre 2018. Cette annonce a suscité des vives contestations de plusieurs partis politiques de l'opposition qui estiment que la CENI aurait été instrumentalisée dans le but de maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir. Et pour conclure, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a souligné que la période à venir sera certainement difficile, d'où a déclaré Maman Sidikou, je cite, « Je crois que ce conseil devrait rester activement saisi de la situation et éventuellement chercher à échanger régulièrement avec la MONUSCO dans les prochains mois. » Fin de citation.
Merci Mireille Boukassa. Vous nous captez à l'instant, sachez que J.R. Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision émettant à Kinshasa, Jean-Pierre Kaimbe, journaliste et responsable de la presse numérique à la RTGA, un média de Kinshasa, et Donna Moussema, directeur général de la radio Iriba FM, émettant à Bukavu et point focal de l'association des journalistes des Grands Lacs, représentant le Rwanda, le Burundi et la RDC, sont les invités de Berry Franklin Luchaka de la tribune de presse de ce vendredi 14 octobre 2016. J.R., comment vous avez analysé les propos de Maman Sidikou?
La MONUSCO est dans notre pays pratiquement depuis plus de 15 ans. Et la MONUSCO fait partie de ceux qui aident ces pays à aller de l'avant. Et quand son patron fait ses rapports, c'est qu'il les fait en connaissance des causes. Il connaît la situation sur le terrain. Et effectivement, l'RDC, c'est un état fragile. Je suis d'avis avec lui qu'il ait attiré l'attention de tout le monde pour dire que si on ne pousse pas le parti prenant à pouvoir se retrouver ensemble pour trouver un compromis, comme je l'avais dit dans la première partie de mon intervention, que demain, en tout cas, les Congos risquent de basculer dans une violence encore beaucoup plus grave que ce que pour lequel en tout cas la MONUSCO s'est présentée. Et quand je considère la situation d'aujourd'hui, ça me rappelle ce que le pays a vécu sous Mobutu dans les années 90 avant que l'AFDL ne vienne. C'est pratiquement le même décor qui est planté. Nous avons affaire à un pouvoir qui a tout fait, qui a planifié les glissements pour que les élections ne se tiennent pas, pour que le président puisse rester en place, pour confisquer le pouvoir du peuple. Et nous avons affaire en face de cette majorité d'une opposition qui tient coûte que coûte en tout cas à barrer la route à cette stratégie. Donc il y a pratiquement deux camps qui sont en train de s'affronter et qui se préparent d'une part à la répression, de l'autre à la résistance. Et voilà c'est à quoi en tout cas nous sommes en train pratiquement de vivre. Et le prochain rendez-vous risque d'être le 19 décembre. Si rien n'est fait, nous risquons d'avoir un basculement des situations.
D'accord. Voilà. Jean-Pierre, comment vous avez analysé les propos du représentant de la MONUSCO?
Non, je n'ai pas été surpris. Je suis finalement habitué à écouter ce genre de propos venant des hauts responsables de Nations Unies.
Que vous n'acceptez pas.
Écoutez, c'est des propos qui ne reflètent pas la situation réelle qui sévit ici au pays. Je voyage avec des responsables de la MONUSCO depuis Roger Miss, Martin Kobler et Maman Sidikou. J'ai toujours entendu des propos alarmants. Parce que ça, c'est des propos qui justifient la présence de cette mission la plus coûteuse dans l'histoire des Nations Unies. Quand il dit que la situation est extrêmement fragile et que le processus du dialogue n'est pas inclusif, mais il oublie que le rassemblement est en train de violer la résolution VD77 parce que la résolution demandait à toute la classe politique d'aller au dialogue. Le rassemblement n'y est pas allé. Il n'a pas condamné
le rassemblement. A posé des conditions pour aller au dialogue.
Mais conditions. On a demandé des actes. De de crispation. Il y a eu plusieurs actes qui ont été posés. Il y a des médias qui ont été rouverts. J.R. Mokolo est ici, travaille pour Canal Congo Télévision. La chaîne sœur, c'est CKTV, est désormais opérationnel. Canal Futur doit être opérationnel, mais ils éprouvent un problème de
Est-ce que ce n'est pas, est-ce que ça, ils n'ont pas été floués carrément?
Ils n'ont pas été floués, je ne pense pas, parce que quand vous prenez ce qui est de la liberté accordée à certains détenus, le ministre de la Justice a dit que
Djoni Ndongala reste toujours en prison, Moïse Katumbi est pratiquement en exil, et ce sont les conditions qui devaient
être arrêtées. J'avais toujours pensé que le dialogue ne devrait pas être une sorte de blanchisserie. Et quand on doit libérer, ça doit se faire au cas par cas, voir qui a fait quoi, qui doit être, qui est libérable et qui ne l'est pas. Mais de manière générale, je reconnais qu'il y a eu des actes de bonne foi qui ont été posés par la majorité présidentielle et qu'au niveau du rassemblement, on n'a pas bougé. On n'a pas bougé et on a toujours manifesté cette radicalisation.
D'accord.
On cherche.
Alors d'abord, évidemment, avocat, vous voir comment on réagit face aux propos de Maman. Alors donnant, vous êtes avocat, vous, comment on a réagi face aux propos de Maman Sidikou Sambo?
Bon, nous constatons que c'est juste encore des propos qui restent juste au niveau de l'alerte. Donc, nous pensons que Maman, avec la MONUSCO notamment et le Conseil de sécurité, si vraiment ils sont de bonne foi, ils peuvent empêcher que ces violences ne puissent arriver. Mais on a l'impression que c'est juste des propos qui sont comme un vœu et qui ne sont pas pratiques. Il y a moyen de couler ces propos sous forme de réalisme et de pragmatisme. Et donc, si jamais les violences arrivaient dans le pays avec toute la capacité de la mission des Nations Unies au Congo pour le moment, ça serait, je pense, encore une fois un échec de cette mission et ça ne serait pas vraiment tolérable pour les Congolais parce que on a l'impression que c'est juste pour calmer les Congolais qu'on dit bon, écoutez, nous craignons, on alerte, mais alors que on a le pouvoir moral, politique et même matériel d'empêcher tout ce qui peut arriver.
Mais est-ce que les propos de Maman sont réels?
On va se rappeler. Et il donne quand même un pouvoir à la MONUSCO. Elle dit, bon, écoutez, les élections doivent s'organiser dans le délai et tout. Mais aujourd'hui, on sent que de plus en plus, il y a des propos, mais qui ne sont pas coulés sous forme pratique. Et c'est ça ce qui est un peu décevant donc, par rapport à ces propos.
D'accord. Mais comme je vous posais la question, vous ne m'avez pas entendu. Est-ce que les propos de Maman Sidikou reflètent la réalité que vit la RDC aujourd'hui par rapport à ce que vient de dire d'ailleurs Jean-Pierre?
Oui, absolument. C'est vrai, on peut craindre l'escalade des violences. Ce sont des propos qui reflètent la réalité. Mais il y a moyen, en plus des propos, de faire quelque chose de pratique. On craint le pire aussi parce qu'on sent que à beaucoup de niveaux, beaucoup de choses ne sont pas faites. Le Conseil de sécurité prend des décisions, mais des décisions qui ne sont jamais appliquées. Et ça fait que les autorités congolaises peuvent se comporter comme si ils ne faisaient pas partie de la communauté internationale.
Oui, mais en même temps, on sait que la résolution, par exemple, 2277, était une résolution recommandatoire. Qu'est-ce qui devrait être fait finalement pour que la MONUSCO ait vraiment tout son pouvoir afin de pouvoir empêcher cette escalade de violence qui est pointée à l'horizon, comme vous l'avez souligné?
Il y a des mesures de contrainte que la MONUSCO peut prendre parce que nous pensons qu'elle représente le Conseil de sécurité, elle représente aussi les Nations Unies. Il y a des mesures de contrainte qu'elle peut prendre. Par exemple, elle peut causer avec les autorités congolaises, elle peut montrer tous les dangers qu'il y a, mais à un niveau beaucoup plus supérieur, on pense que il y a une petite fuite un peu de responsabilité aussi et donc les civils vont encore en pâtir. Donc voilà, nous voulons plus de pragmatisme et des contraintes envers les autorités congolaises et le pouvoir de Kinshasa.
D'accord. Jean-Pierre, vous voulez réagir au propos de Donna?
Je voudrais dire ici que la MONUSCO a le devoir de donner ses bons offices, de convaincre le rassemblement à intégrer le processus du dialogue.
Mais pourquoi le pouvoir ne peut pas convaincre le rassemblement en posant des actes concrets?
Bien d'actes ont été posés, je le dis ici. Je dis qu'il y a des
prisonniers qui ont été relâchés. Mais ils ne sont pas suffisants des actes,
non,
à en croire d'ailleurs ceux qui sont au rassemblement.
Non, aujourd'hui, le rassemblement a d'autres promesses. le rassemblement travaille sur le pourrissement de la situation. Vous avez lu la presse entre mardi et mercredi, un complot ourdi depuis la France, où on voudrait prendre absolument le pouvoir par la force. Donc aujourd'hui, au niveau du rassemblement, c'est la terre brûlée, au niveau du rassemblement, c'est la violence et tout. Et non qu'un seul projet de société, je le disais ici, Kabila doit partir, quelles qu'en soient les conséquences. Donc, des actes ont été posés.
Mais est-ce que ce n'est pas finalement, c'est pas la fin de son mandat où il doit partir?
Oui, il sait qu'il doit partir. Il ne sera pas là, lui, Tama Eterna. Il doit partir. Mais dans quelles conditions? Il doit partir en laissant un pays pas plongé dans une violence inouïe.
Ça signifie qu'on aurait dû organiser les élections.
On aurait dû organiser les élections, mais ce n'est pas lui qui les organise, c'est la commission électorale. Mais est-ce que je dois rappeler encore ici qu'entre le bureau Ngoï Mulunda et Corneille Nanga aujourd'hui, vous savez combien de temps on a mis pour changer le bureau Malou, changer le bureau Ngoï Mulunda. Bon, tout ce qu'on a, on a connu de retard, on a récusé des calendriers électoraux. Et tout ça, ce n'est pas seulement de la faute de la majorité présidentielle. L'opposition est aussi comptable de ce retard que nous accumulons aujourd'hui. Je vous dis encore, je voudrais encore préciser
très rapidement,
au niveau du rassemblement, aujourd'hui, il y a de la mauvaise foi. De la mauvaise foi parce que...
Là, vous parlez de journaliste ou acteur politique.
Ici, je défends des valeurs positives. Parce qu'on a intérêt à voir la RDC de demain en paix.
D'accord. J.R., vous voulez réagir au propos de Jean-Pierre?
Oui, c'est ce qui pose problème dans ces pays, c'est quoi? Nous sommes dans une république dite démocratique, mais on n'a pas de démocrates. La gestion du pays n'a rien à voir avec la démocratie.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, par exemple, nous avons une CENI qui est appelée organe d'appui à la démocratie, mais le schéma que la CENI est en train d'appuyer en violation de la Constitution n'a rien à voir avec la démocratie. Je ne sais pas si vous avez lu la réflexion du professeur Célestin Kabuyalou Monasando, qui est sorti dans les différents journaux, notamment le journal La Prospérité, où il a démontré comment est-ce que les stratèges de la majorité présidentielle ont tout fait pour que le pouvoir du président Kabila soit prolongé au-delà de son mandat. Parce que apparemment au niveau de la majorité, on ne s'imagine pas que le président Kabila soit en tout cas un ancien président. Au lieu de réfléchir par exemple sur la conservation du pouvoir par les groupes, on aurait dû être maintenant en train de se préparer.
Mais vous entendez Jean-Pierre dire que c'est quand même le rassemblement qui joue le jeu du pourrissement de la situation.
Ça c'est sûrement l'argument que j'entends chez pratiquement les bancs de la majorité. On est aujourd'hui par exemple en train de faire un enrôlement pour refaire les fichiers électoraux. Qui a mené l'action pour empêcher cette opération? Quand on avait par exemple enregistré les candidatures en 2015 pour les élections provinciales, est-ce que si la CENI était allée jusqu'au bout, qui allait empêcher cette élection?
Donc ça signifie pour
ça,
vous...
Ça c'est du mensonge pur et simple. La réalité c'est que on n'a pas affaire à des démocrates. Et le président Kabila ne se voit pas en tout cas dans les statuts d'un ex-président. Alors tout doit être fait pour que lui reste là. Comme on ne peut pas changer de constitution, il fallait contourner la constitution. Et il a trouvé des Congolais à la cité de l'Union africaine qui ont accepté de prendre des postes pour lui apporter une caution à cette prolongation tacite de son mandat pour qu'il reste au pouvoir. Parce que c'est un fâcheux précédent, je vais conclure par là. Donc ça veut dire que dans ces pays, il suffit seulement d'avoir un mandat et de faire tout pour que les élections ne se tiennent pas pour rester. Tel qu'on est parti là, on risque d'arriver à 5 ans, le président Kabila est toujours là, sans élection.
Donc pour vous, le président Kabila est encore là si cet accord est signé et bon, s'il n'y a pas le rassemblement.
Parce que la conception du pouvoir que nous avons ici, c'est quoi? Le pouvoir se trouve au bout du fusil. Ce pouvoir-là, nous l'avons eu avec l'AFDEL, quand vous suivez les propos de Harry Mova, le CG du PPRD, que ce pouvoir-là, nous l'avons eu avec l'AFDEL, c'était au bout des canons, c'était avec mort d'homme, pour que quelqu'un vienne prendre ce pouvoir-là. C'est pas dans les urnes, il faut qu'il vienne avec la force, et d'où, vous voyez, tout le déploiement que nous avons ici, et toute une armée à Kinshasa, la capitale est transformée pratiquement en une prison à ciel ouvert, donc pratiquement les Congolais sont dans une prison, tout ça parce que on veut se maintenir au pouvoir.
Voilà.
Au lieu de penser
alors,
démocratie, de préparer un dauphin, par exemple, au niveau de la majorité présidentielle, on aurait dû penser à tout ce qui s'est fait aujourd'hui en enrôlement bien avant.
Merci, J.R. Alors, selon vous, ce sera par là qu'on va conclure le premier thème de la soirée. Qu'est-ce qui peut être fait pour arriver véritablement à un dialogue inclusif? Donnant.
Ce qui peut être fait, c'est simple, c'est question, comme nous l'avons dit au début, d'intégrer tous ceux qui sont en dehors de l'Union africaine et qui voudraient bien être dans le dialogue inclusif et global. Donc, il faudrait que notamment le rassemblement puisse intégrer ce dialogue la société civile dans sa grande partie, l'Église aussi, et voilà, ce sera, je pense, une bonne chose. Donc, ceux qui accusent le rassemblement, comme quoi, bon, c'est lui qui est à l'origine de la crise, personnellement, je ne partage pas cette opinion. Je pense plutôt qu'il y a encore du temps qu'on puisse intégrer toutes les forces pour parler sincèrement et que la volonté politique puisse vraiment jaillir et l'emporter sur des agendas cachés, comme apparemment c'est le cas pour la majorité présidentielle. Parce qu'on a compris que le dialogue était là juste pour cacher le plan de conserver quelqu'un au pouvoir jusqu'à peut-être 30 ans, 50 ans et tout et tout. Donc, il faut que dans ce dialogue, tout le monde parle, mais que ça soit sincère et qu'on puisse respecter les engagements. Parce que quand on ne respecte pas les engagements, quand on viole la Constitution à tout bout de champ, quelle garantie on a pour respecter aussi l'accord qui sera dans ce dialogue? Voilà un peu autant de craintes, mais c'est pas encore tard. On peut intégrer toutes ces forces qui ne sont pas dans l'Union africaine.
Merci beaucoup. Oui, merci Donna. Alors, Jean-Pierre, vous avez entendu Donna, il dit il faut vraiment essayer d'intégrer les autres qui sont en dehors du dialogue, notamment le rassemblement, la plus grande frange de la société civile et même les églises, les confessions religieuses, et aussi que la volonté politique puisse primer au-delà des considérations personnelles. Quelle sera votre proposition pour arriver à un dialogue véritablement inclusif?
Mais il dit qu'il faut les intégrer. Que je sache, ils n'ont pas été exclus. Ils n'ont pas été chassés. Certains préalables peuvent faire l'objet de débats. Qu'ils y viennent. Ils ont des revendications. Ils ont des réclamations à faire. Ils n'ont qu'à venir autour de la table. Sinon, ce sont eux qui cachent un autre plan. Parce qu'ils ont toujours dit que le dialogue est dans l'ADN des Congolais. Le dialogue est soutenu par la communauté internationale. Ils ne savent pas que à l'Union africaine, la MONUSCO y est. La
communauté internationale. Quelles sont vos propositions à vous pour qu'il y ait ce véritable dialogue?
Écoutez, je considère le dialogue qui est actuellement en cours comme véritable. Merci. Je ne suis pas là pour dénier la qualité des moins opposants ou des sous-opposants, Vital Kamerhe, Steve Mika et les autres qui sont là. Ce qu'il faut faire, les choses doivent avancer. L'accord doit être signé, je crois, ce week-end, qu'on signe l'accord, qu'on laisse une ouverture, s'ils se sentent intéressés, qu'ils viennent, parce que on ne peut pas laisser le sort de la République être suspendu aux lèvres d'un groupe de gens.
D'accord, merci.
On doit avancer et puis ils viendront nous rejoindre. On sait que depuis longtemps, Étienne Tshisekedi et compères ont toujours raté des grandes opportunités.
Merci beaucoup.
Merci.
Alors très rapidement, alors JR, quelles sont selon vous les pistes pour arriver à un dialogue véritablement inclusif? En une minute, parce qu'on doit aller dans notre deuxième thème.
Oui, moi, très rapidement, Berry Franklin, je crois qu'il faut laisser ce dialogue de la Cité de l'Union africaine continuer, qu'ils signent leur compromis politique. Et le rassemblement, je crois, aussi à sa feuille de route issue de son conclave. Et on va maintenant mettre, je crois, pas un dialogue, mais des négociations sous les auspices peut-être d'un autre facilitateur, pas Eden Kojo qui n'a pas de confiance du rassemblement, parce que quand on voit son comportement, il doit avoir sûrement choisi son camp. Donc, on fait des négociations entre les deux camps, les camps de la Cité de l'Union africaine, c'est-à-dire la majorité présidentielle avec les groupes de Kamere, Boussa, Maurice Sidikou et les autres, et le rassemblement et les MLC. On fait des négociations directes sous les auspices des Nations Unies ou d'un autre facilitateur pour essayer un peu de confronter les deux feuilles de route, c'est-à-dire les compromis politiques issus de la Cité de l'Union africaine et ce que propose le rassemblement ou les MLC pour trouver en tout cas, je crois, une synthèse, un compromis intermédiaire qui pourra faire en sorte que tout le monde regarde dans la même direction.
Merci
pour
beaucoup.
Que des mots d'ordre ne soient pas donnés, que le 19 décembre en tout cas tout se passe calmement et que les Congolais se préparent à fêter la Noël et
très
la
bien.
Bonne
année
dans de bonnes conditions.
Merci JR, et tout de suite nous passons à notre deuxième thème de la soirée qui concerne la reddition de Gédéon. Le seigneur de guerre Kyungu Mutanga alias Gédéon s'est rendu mardi aux autorités de la province du Haut-Katanga avec une centaine de ses hommes. C'était au village Malambwe, à près de 70 km de Lubumbashi, sur la route Kasenga. Arrivé à Lubumbashi, lui et ses hommes ont déposé les armes et se sont engagés à œuvrer pour la paix. Un geste salué par le gouverneur de province qui a promis la sécurité à Gédéon ainsi qu'à ceux qui l'accompagnent. Jean Gandou, vous étiez là pour le compte de Radio Capi. Dans quel état était Gédéon?
C'est un Gédéon visiblement fatigué. Sergei Amegri qui s'est présenté devant l'autorité provinciale au village Malamboué, lieu de la rencontre. Coiffé d'un chapeau sur lequel on pouvait lire « Paix pour tous », ce seigneur de guerre était habillé en pull vert de couleur verte avec effigie du chef de l'État. Ses acolytes, une centaine au total, étaient dans deux camions disponibilisés pour la circonstance. Ils avaient les banderoles autour de la tête portant la mention « Mira », mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains. Arrivé au carrefour à l'entrée de la ville de Lubumbashi, Gédéon, ses adeptes ainsi que les autorités provinciales ont fait une marche à pied jusqu'au bâtiment du 30 juin. C'est là qu'il a déposé ses armes, notamment celles lui remises d'après lui par le président Mzé Kabila dans le cadre de l'autodéfense populaire en 1998. Juste après, les autres membres de son groupe ont déposé les arcs, les flèches, les amulettes et autres armes à feu qu'il détenait. Prenant la parole, Gédéon a annoncé qu'il est venu répondre à l'appel du chef de l'État qui veut la paix. Au sujet des poursuites judiciaires, il a indiqué qu'il est disposé à affronter la justice. Pour sa part, le gouverneur des provinces a salué cette reddition qui prouve une fois de plus qu'on peut faire la paix sans effusion du sang. Il a garanti à Gédéon que lui et ses acolytes seront sous la protection de nos forces de sécurité. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Merci Jean, et pour être complet dans ce dossier, sachez qu'au lendemain de cette reddition, l'Institut de recherche pour les droits humains recommande aux autorités congolaises d'emprisonner ce chef milicien afin qu'il purge sa peine. Parce que Gédéon avait été reconnu coupable des crimes contre l'humanité et condamné à la peine d'emprisonnement à perpétuité par le tribunal militaire garnison du Haut-Katanga. Jean-Pierre, vous avez suivi cette actualité. Comment vous analysez cette situation?
Écoutez, l'affaire Gédéon aujourd'hui me réjouit, moi. La reconversion. Un chef de guerre, condamné, il s'est évadé par la suite, on sait, en 2009. Et aujourd'hui, il refait surface.
Il s'était évadé en plein jour.
Il refait surface, merci, il refait surface. Non pas pour tuer ses compatriotes, mais pour faire la paix.
Et il était leader de Bakata Katanga. On sait comment ça s'est passé.
On connaît son passé sulfureux. Mm-hmm. On connaît son passé sulfureux, peu recommandable d'ailleurs. Je suis défenseur de la justice. Je suis défenseur de la bonne cause. J'ai toujours pensé qu'il ne faut pas accorder une prime à l'impunité. Mais il y a la paix. Il y a l'impératif de la paix qu'il faut préserver à tout prix. Quand un compatriote accepte de remettre ses armes, de se rendre auprès des autorités, il dit qu'il est ouvert, il veut affronter la justice, il a ses moyens de défense, pourquoi ne pas l'accueillir?
D'accord.
Pourquoi ne pas l'accueillir?
Très bien.
Pourquoi pas? C'est parce que si aujourd'hui...
Donc pour vous, le fait qu'ils disent qu'il est venu répondre à l'appel du chef de l'État qui veut la paix, pour vous, c'est déjà carte blanche. Il peut même adhérer dans la plateforme de la majorité présidentielle.
Carte blanche, je ne pense pas. Mais ce qui compte pour moi ici, c'est sa bonne foi. Parce qu'aujourd'hui, on sait que...
Qui peut le faire disculper devant la justice?
On a des poches de résistance. Non, non, la justice, la majorité présidentielle est une histoire privée. La justice, c'est autre chose. Et donc, le fait pour lui d'être à la majorité présidentielle ne l'exonère pas de poursuites judiciaires. Mais je crois que c'est un message fort à envoyer à tous les autres seigneurs de guerre qui pilulent dans nos forêts. Que la place est là pour eux. Ils peuvent revenir, faire la paix avec leurs frères.
Merci. Alors, certains analystes politiques estiment qu'il y a anguille sous roche derrière cette reddition. Qu'en pensez-vous?
Oui, avant de pouvoir en tout cas répondre à votre question, je ne voudrais en tout cas me dissocier de tout ce que mon confrère Jean-Pierre Kaimbe vient
de dire. Vous êtes totalement...
Totalement en désaccord en tout cas avec lui. Et ce serait un membre de la majorité présidentielle qui parlerait, si je peux comprendre. Mais pas un journaliste, parce que Gédéon, c'est un criminel, un évadé, un fugitif. Et le premier acte qu'on devait poser, c'était de le retourner en prison, parce qu'il avait été condamné. Et quand il fouillait la prison, quand il s'évadait, il y a eu même mort d'homme.
Et il s'est évadé en plein jour, comme je
l'ai dit. Voilà, donc c'est pas un signal positif qu'on lance, c'est un signal très négatif qui voudrait que, pour être pris en considération dans ces pays, il faut prendre les armes, il faut tuer.
Et donc, vous êtes d'accord
avec... Il faut manger de la chair humaine comme Gédéon l'a fait.
Et donc, vous êtes d'accord avec ces analystes qui disent qu'il y a anguille sous roche?
Oui, il y a anguille sous roche. Et le fait même qu'il ressort subitement et qu'on organise même un carnaval avec tambour, trompette, majorette, tout ça. Il était à côté du gouverneur, très jovial. Le gouverneur était très jovial, très content. Avec un pilover frappant les fusils du chef de l'État, on a désacralisé la personne du chef de l'État. C'est le président de tous les Congolais. Ce n'est pas le président seulement de la majorité présidentielle auprès de qui peut-être Gédéon et son parti politique sont allés adhérer. Il est le président du Congo. Et l'image qu'on renvoie à l'extérieur, c'est quoi? Ce que tout ce que Gédéon a commis comme crime aurait été fait sous la bénédiction du chef.
D'accord. Merci
pour
beaucoup.
Pour ceux qui ont posé, ceux qui ont fait porter, en tout cas, je dis, c'est pour le verre. Frappe pas les filles du chef de l'État, ils ont rendu un très mauvais service au chef de l'État en termes d'image.
Merci.
En termes de communication.
Voilà. Alors, Donna, comment comprenez-vous qu'un chef de guerre se soit rendu aux autorités et que ces autorités lui garantissent finalement la sécurité?
Justement, à ce niveau précis, qu'il y a beaucoup d'éthique, on ne comprend pas comment on peut le présenter en public comme ça, on lui fait des garanties, il devient pratiquement la star des médias et tout et tout. À ce niveau, on peut douter peut-être qu'il y aurait une petite complicité là, et ça tique même les victimes. Parce que si on se met à la place des victimes, toutes ces femmes qu'il a violées, toutes ces personnes qu'il a tuées, et leurs familles, est-ce que ces familles sont contentes aujourd'hui? Non. Je pense que c'est une mauvaise pédagogie comme ça de déprimer les criminels, de les tolérer comme ça et puis de les encourager. Alors qu'il y a toujours des gens qui sont en prison, des innocents qui n'ont rien fait, qu'on ne s'est pas libéré aujourd'hui, mais quelqu'un qui vient, c'est vrai, il s'est rendu, mais on ne sait pas si c'était ses frais par appel du chef de l'État, il a répondu, on n'a pas assez de véracité, mais ça tique plus d'une personne. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a tué les gens, qui a violé, qui a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité,
et qui a été même condamné,
bien accueilli comme ça avec pompe, ça tique plus d'une personne. Nous voulions par exemple que les gens qui traînent injustement dans la prison là-bas à Kinshasa, comme Bagayamoukou, un enfant du site qui vous dit ça, Bagayamoukou, qu'on puisse libérer tous ces gens, qu'on puisse par exemple arrêter les arrestations des Bruno, les gens là-bas de l'UDPS et tous les autres là-bas. C'est ça un peu ce que nous voulons, nous, comme peuple congolais.
D'accord. Alors, pour conclure, parce qu'il nous reste moins de minutes avant la fin de cette émission, pensez-vous que la reddition de Gédéon peut tracer le chemin de la paix dans cette partie du pays?
Bon, pas forcément. Moi, je pense qu'il était déjà à court des munitions, peut-être. Il s'est vu au bout du gouffre, alors il n'avait plus de choix. Il s'est rendu, mais il n'y a pas assez de sincérité. Donc, je ne pense pas du tout comme cela. C'est plutôt au niveau du gouvernement congolais qu'il faut un État fort, un État capable de dissuasion, capable de sécuriser tous les Congolais à travers le territoire national. Sinon, sa reddition, c'est un événement. Je pense qu'il était tout simplement à court de munitions. On l'a dit, il était visiblement fatigué, amaigri et tout et tout. Il n'était plus capable de faire mouche, je pense.
D'accord. Merci beaucoup. Ce sera aussi votre conclusion. Jean-Pierre, une conclusion par rapport à cette question que j'ai posée. Est-ce que vous pensez que cette reddition de Gédéon peut amener la paix, finalement, dans cette partie du pays?
Absolument. Absolument, je connais l'histoire de ce qui était devenu le triangle de la mort. Je connais comment ce triangle a mobilisé des médias internationaux. Aujourd'hui, Gédéon a envoyé un message fort à tous les autres qui sont encore en brousse, qu'ils peuvent revenir. Évidemment que le pardon n'exclut pas la réparation des préjudices, il ne se soustrait pas de la justice. Mais à mon avis, je crois que c'est des actes qu'il faut encourager.
Même quand on lui promet la sécurité.
Oui, déjà il faut voir sa bonne foi de renoncer à ses actes belliqueux, de revenir.
Et ça disculpe directement.
Je n'ai pas dit ça.
D'accord.
Je n'ai pas dit ça. Mais en tant que parent, il est de bonne
loi
que l'on encourage ces actes. Je dis tantôt que le pardon n'exclut pas, en tout cas la réparation des préjudices, mais un tout bon parent ferait ce que le gouverneur Kazembe a fait.
Ça sera aussi votre conclusion, JR, votre conclusion par rapport à cette question.
Oui, moi je pense que là en tout cas, le pouvoir public a montré sa faiblesse face à un criminel. On aurait dû, comme l'a indiqué notre confrère Donna, que sûrement Donna, Gédéon était à court d'armes et de munitions, on aurait dû sûrement en tout cas les soumettre à une reddition forcée, et plutôt que de faire ce qu'on a fait là. Et même si c'était rendu de lui-même, on n'aurait pas organisé un carnaval, on ne l'aurait pas habillé avec un pullover et frappé à l'effigie du chef de l'État, on n'aurait pas organisé tous ces folklores-là. C'est comme si on était en train de fêter le retour d'un criminel. À cet instant, chez Gédéon, Kiungu, Mutanga, ne pas les fils prodigues de la Bible. Celui-là avait seulement dilapidé sa part d'héritage. Mais celui-ci, c'est un criminel qui a tué, qui a mangé de la chair humaine. Je crois que sa place, en tout cas, se trouve en prison et pas dans une résidence luxueuse du quartier Golf de la ville de Lubumbashi.
Merci beaucoup.
C'est injuste et c'est inadmissible.
Merci beaucoup. Ce sera aussi votre conclusion. Et c'est la fin de cette tribune de presse de ce vendredi 14 octobre 2016. Dieudonné Nyangasa était à la prise de son. Kéline Kouti a coordonné cette édition supervisée par Julien Nyamouini. Berry Franklin Louchaka vous dit merci de nous avoir suivis. Remarques et suggestions, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail à dec@radiocapi.net. Et surtout, retrouvez cette émission sur www.radiocapi.net. Merci de nous rester fidèles au programme de Radio Capi. À la semaine prochaine. Bye bye.